à Votre Écoute. L'émission qui laisse la parole à la communauté de l'Université d'Angers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans UA Votre Écoute, l'émission qui laisse la parole à la communauté de l'Université d'Angers. Il s'agit déjà de notre dernière émission après 6 semaines à recueillir vos témoignages et à interroger nos invités pour répondre aux questions que vous avez pu vous poser. Le confinement allant toucher à sa fin, cette émission aussi, mais vous pourrez bien sûr toujours contacter les différents services de l'université en cas de besoin. Au programme aujourd'hui, nous commencerons par une interview avec Virginie Grimaud, conseillère en insertion professionnelle au sein du service universitaire d'information, orientation et d'insertion professionnelle, avec qui nous reviendrons notamment sur la question des jobs étudiants alors que la période estivale approche. Nous écouterons ensuite le témoignage de Corinne, étudiante en animation, partie au Pérou pour un stage et qui a dû être rapatriée en France, ainsi qu'une petite discussion avec David Rousseau, enseignant-chercheur en physique qui réalise différents projets à l'aide d'outils d'intelligence artificielle avec ses élèves, mais aussi sur sa chaîne YouTube. Enfin, nous terminerons avec Nathalie Clos, directrice des bibliothèques universitaires et des archives, qui nous parlera de la mise en place prochaine d'un système de prêt adapté à la situation. Nous sommes en compagnie de Virginie Grimaud, conseillère en insertion professionnelle au sein du service universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vous occupez de l'accompagnement des étudiants vers la professionnalisation. Il peut s'agir de trouver des stages, de trouver des jobs étudiants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites, de la manière dont vous travaillez avant le confinement?
En fait, notre quotidien, on est plusieurs à avoir ce poste au sein du SUIO. Donc, notre quotidien, c'est d'accueillir de manière individuelle les étudiants sur des thématiques telles que le conseil en CV, le conseil sur la lettre de motivation, des simulations d'entretien et de les guider vers des sites dédiés à la recherche d'emploi ou de stage. Donc on en a un au sein du SUIO de l'Université d'Angers qui s'appelle Hippoline, mais il y a beaucoup de sites de référence qui existent. Donc vraiment on accompagne le cheminement et à la professionnalisation les étudiants de l'Université d'Angers. Et même s'il le faut, on organise des séminaires pour les jeunes diplômés, ceux qui arrivent en septembre, qui n'ont pas encore trouvé le job de leur rêve. Donc voilà. On est toujours là, de leur entrée à la sortie de l'université, on accompagne les étudiants. Donc de manière individuelle, mais aussi de manière collective, donc on organise des ateliers, sur inscription des étudiants ou des ateliers qui nous sont demandés par les enseignants. Donc on a vraiment un rapport très différent sur ces ateliers avec l'étudiant, puisque c'est vraiment de l'échange avec d'autres étudiants, donc c'est pas du tout de manière individuelle. Et on organise aussi des manifestations pour les faire rencontrer des professionnels et voir un petit peu quelles sont les méthodes de recrutement innovantes. On organise plusieurs manifestations dans l'année et c'est toujours riche d'informations pour eux. Et puis c'est là qu'ils se rendent compte aussi que les compétences, on parle beaucoup de CV, de lettres de motivation, et moins de compétences. Alors les compétences techniques, ils les voient avec leurs enseignants la plupart du temps, mais les compétences comportementales, ils méconnaissent un petit peu ces termes-là et on les fait identifier leurs compétences et les valoriser sur leurs outils de communication. Voilà, en gros, c'est ça un petit peu notre quotidien au sein du SUIO.
Et j'imagine qu'avec le confinement, vous avez dû donc changer pas mal vos manières de travailler.
Tout à fait. Alors la première chose qui nous est arrivée, c'est d'annuler nos manifestations, parce qu'effectivement, des manifestations distancielles, on n'était pas prêts pour les organiser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout ramené plutôt à des entretiens individuels. Pas plus de face à face, mais plutôt via un outil que l'université nous a proposé qui s'appelle Teams et qui est vraiment très bien fait parce qu'on peut avoir un partage de CV, de lettres de motivation et on peut échanger directement avec l'étudiant. Après, on a remarqué tout de suite que le rapport était différent avec eux, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup plus de temps pour échanger sur comment ça se passe en confinement, sur l'entrée en matière est beaucoup plus longue et tout aussi intéressante. Voilà, on a changé un petit peu nos pratiques à travers cet écran et c'est assez intéressant de voir comment on fait, comment on procède maintenant. Les échanges sont plus longs aussi, c'est-à-dire qu'on avait tendance à aller un petit peu plus vite quand on était en face à face et avec l'écran, eh bien, on prend plus de temps avec eux. Mais en tout cas, ça n'était pas une grosse différence par rapport aux entretiens individuels. Sur le collectif, bon, j'ai essayé de faire des petits groupes de 4-5 personnes, mais c'est pas du tout à l'échelle d'une formation de 20 à 30 personnes. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille là. On s'est mis tout de suite au travail avec mes collègues pour proposer quelque chose d'hybride un petit peu à la rentrée, parce qu'on sait très bien que ça peut continuer et donc on veut être prêt pour bien accueillir les étudiants et bien les accompagner au niveau de l'insertion professionnelle.
Et donc, en ce moment, vous traitez plutôt quel genre de demande? C'est plutôt ce qui va toucher au stage ou c'est plutôt ce qui va toucher au job étudiant?
Alors, pour les stages, on aurait eu les retardataires et vu que, justement, l'université priorise plutôt les stages qui sont en M2 et en licence professionnelle, voilà, ces étudiants-là avaient déjà trouvé des stages, ils se retrouvent à faire la plupart du temps du télétravail ou à diminuer les périodes de stage. Donc, on travaille très peu sur les demandes de stage, mais on va avoir une grosse demande et on a une grosse demande sur les entrées en master, les accompagner et les aider à intégrer ces filières sélectives et l'entrée en master 1 se fait sur dossier, sur entretien. Donc les pratiques sont un petit peu différentes, on passe encore par l'écran, mais on les accompagne tout autant et la demande est beaucoup plus forte même que les années antérieures puisqu'on ne peut pas organiser d'atelier, donc les demandes individuelles sont très fortes. Et puis on va avoir des demandes et les demandes qui arrivent le plus souvent là en ce moment, ça va être le job étudiant. Effectivement, il y a plein d'étudiants qui n'ont pas pu faire de stage donc qui auraient dû être gratifiés ou qui avaient un job étudiant et qui se retrouvent sans. Donc voilà, il va y avoir une grosse, grosse demande pour la période estivale.
Une période estivale qui va être chamboulée par rapport à la situation, forcément. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez, vous, une idée un peu des secteurs qui vont embaucher, des secteurs qui ne vont pas embaucher? Comment on va voir ça?
Alors moi, ce n'est pas une idée, c'est simplement une tendance, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, justement. Alors je suis également, mon côté, je suis administratrice du portail de l'insertion professionnelle Hippoline, sur lequel d'habitude tous les étudiants trouvent les offres de stages d'emploi et de jobs étudiants pour l'été. Et effectivement, on constate une baisse énorme d'offres. Donc nous, on est un petit peu proactifs avec mes collègues, on regarde un petit peu à gauche, à droite, sur quel site ils pourraient se rendre. Et bien sûr, il y a le site de référence JobAvis, donc c'est un site, c'est un agrégateur de sites. Donc en tout cas, ils trouveront le plus d'offres sur celui-ci. Il y en a d'autres, je vais les nommer quand même, parce que voilà, ça peut être intéressant pour les étudiants. Il y a mon job étudiant qui est présent sur 52 départements. Et puis, voilà, il faut savoir aussi que nous, par exemple, à l'Université d'Angers, on propose des emplois dès la rentrée pour les étudiants. Il y en aura un petit peu en juillet, mais aussi, par exemple, avec InfoCampus, on va embaucher des étudiants. Donc, surtout qu'ils regardent, qu'ils continuent à regarder Hippoline pour avoir ces offres. Ce qu'on remarque, c'est qu'on va avoir beaucoup d'offres de job étudiants sur les livraisons. Voilà, on voit que les restaurants, les livraisons se développent. Donc, surtout, ne pas hésiter à, si on a un vélo, une voiture, à candidater auprès de ces entreprises. Et aussi, là ça revient, j'ai constaté depuis hier des demandes de cours pour des étudiants, pour des lycéens ou pour des collégiens de plus en plus. Donc ça va se développer aussi, c'est évident. Il va y avoir aussi la reprise des marchés, donc on va avoir besoin de main d'œuvre. Mais ce qu'on constate beaucoup, c'est au niveau agricole. Voilà, il va y avoir une très très forte demande. Alors c'est souvent de la cueillette, c'est des travaux difficiles, mais en tout cas, vu que les frontières ont été fermées, les agriculteurs vont manquer de main d'œuvre. Donc là, il va y avoir une très très forte demande, pas forcément d'annonce, donc faut pas hésiter à faire des candidatures spontanées. Sur les pistes que je donnais juste avant, c'est pareil, hein. Candidature spontanée, faut pas hésiter. Et puis on est en attente quand même, enfin il va y avoir aussi des fortes demandes dans les grandes surfaces, on voit bien que les gens font appel au drive, donc voilà, il y a besoin de mise en rayon, de gestion des stocks, donc faut pas hésiter à se déplacer directement dans les grandes surfaces pour donner son CV. Et puis au niveau du gardiennage, de la sécurité, de l'aide aux aînés et même de entretien nettoyage, c'est quelque chose qui va être beaucoup demandé. Donc c'est des travaux difficiles, mais il y a de l'emploi, il y aura du job étudiant cet été à ce sujet. Voilà, ne pas hésiter également, alors c'est une autre piste, aller dans les agences d'intérim, parce que c'est pareil, elles ont d'autres offres, d'autres pistes. Donc se déplacer directement en agence d'intérim, là ça va être réouvert, donc déposer son CV, bien sûr avec un masque, hein, il faudra quand même faire attention à tout cela, à regarder le site de Pôle emploi également, il y a des pistes de job étudiant, et puis la restauration, l'hôtellerie, bah, c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, bah, il va falloir attendre le 15 juin pour savoir ce qui va être décidé de la réouverture ou pas de ces bars et restaurants, et là forcément si justement il y a réouverture, il va falloir démarcher très très vite. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ne candidatez pas, n'envoyez pas une lettre, un CV, déplacez-vous directement. C'est souvent sur la présentation que ça joue ces métiers-là. C'est comme sur les marchés, un pas de candidature, on se déplace. Voilà.
On sait que ça peut parfois être un peu décourageant quand on enchaîne les candidatures et qu'on n'a pas de réponse. Est-ce que vous avez des conseils ou des astuces de ce qu'on peut faire quand c'est comme ça et qu'on se sent un peu...
D'abord, c'est pas parce qu'on vous a refusé que vous étiez mauvais. Première chose, c'est parce qu'il y avait d'autres candidats, que les gens ont été peut-être plus rapides que vous. forcément, au bout d'une vingtaine de candidatures, quand on est refusé, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas sur son CV, sur sa présentation, sur quelque chose que vous dites sans vous en rendre compte. Donc, dans ces cas-là, on est là. Nous, on sera présents, si vous voulez, au moins jusqu'à la mi-juillet, voire jusqu'à la troisième semaine de juillet pour vous répondre. Donc, s'il y a un besoin, les étudiants de l'Université d'Angers doivent vraiment revenir vers nous pour voir ce qui pêche, enfin voilà, ou avoir d'autres pistes et ne jamais se décourager. C'est pas parce qu'on n'a pas été pris là qu'on sera pas pris ailleurs. Il y a peut-être une toute petite chose à changer, c'est la plupart du temps le cas. Voilà, il y a des étudiants qui ont tout à fait compris comment se faire remarquer avec un CV flash qu'on remarque tout de suite. D'autres sont plus discrets mais tout aussi compétents. Donc il faut absolument qu'ils comprennent comment jouer sur valoriser ses compétences avec un CV un petit peu plus en adéquation avec le job étudiant.
Et il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé l'arrivée d'une prime pour des jeunes de moins de 25 ans en situation de précarité. Est-ce que vous avez quelques informations à ce sujet ?
Alors, ce sera des primes qui seront attribuées à des étudiants qui sont en formation initiale la plupart du temps, pour moitié en tout cas, qui ont entre 18 et 25 ans et qui auraient eu un job étudiant qui n'a pas pu perdurer à cause justement des contraintes liées au Covid-19. Donc, ils auraient perdu leur emploi. Donc, cet emploi devait être de plus de 8 heures par semaine. Ça pourrait être attribué à des étudiants qui devaient avoir un stage gratifié et qui n'ont pas pu bénéficier de cette gratification, vu qu'une gratification se donne au niveau d'un stage de plus de 2 mois. Donc, ils n'auraient pas fait le stage complet. Donc là, dans ces cas-là, il faudra qu'à partir du 12 mai, ils aillent sur le site étudiant.gouv pour demander cette aide, qui sera simplement ponctuelle, hein, voilà, de 200 euros.
Est-ce que pour finir, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez repréciser ?
Oui, voilà, tous les ans, comme ça arrive, et hélas, de temps en temps. Alors au niveau national, ça arrive beaucoup plus souvent, mais au niveau d'Angers, c'est déjà arrivé. Et donc, voilà, les étudiants vont être vraiment en recherche d'emploi, je comprends, de job étudiant, mais il y a des arnaques. Il faut vraiment qu'ils se méfient, notamment tout ce qui est garde d'enfants. Il arrive de temps en temps que, bah, via le Bon Coin, via un site qu'on ne peut pas gérer exactement, pas une entreprise, hein, bien sûr, une petite annonce qui passe comme ça, qui propose de garder des enfants et puis ce serait bien que l'étudiant achète des cadeaux ou donne de l'argent pour que justement ces enfants arrivent dans de bonnes conditions en France, chez eux à Angers. Et donc certains étudiants versent de l'argent. À partir du moment où il y a versement d'argent, voilà, c'est pas normal. Donc les étudiants, surtout en ce moment, si on vous demande de l'argent, n'en versez pas à l'avance. Attendez d'avoir un contrat avant de donner de l'argent et puis n'en donnez surtout jamais. Et puis deuxième chose aussi, je voudrais alerter les étudiants sur tout ce qui est l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire que pour faire des livraisons, souvent on vous demande de créer votre propre entreprise. Et donc dans ce cas-là, j'aurais voulu simplement citer et donner les coordonnées de ma collègue qui s'occupe vraiment de tous ces petits détails juridiques et puis surtout qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site de l'URSSAF où ils trouveront toutes les informations. Vous voyez tous ces délibéraux, on a besoin de créer un statut d'auto-entrepreneur. Donc pour cela, je donnerais bien les coordonnées de ma collègue qui s'appelle Chloé Maillet. Donc c'est chloé.maillet@unif-angers.fr.
On redonnera l'information sur la page de cette émission. Merci beaucoup Virginie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci, au revoir.
Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après Concorde et le titre Vol d'après-midi. Thank you. retour sur les ondes de Radio Campus Angers pour cette dernière émission du à votre écoute. Et on écoute tout de suite le témoignage de Corinne, étudiante en animation et revenue en France en plein confinement suite à un stage interrompu au Pérou.
Bonjour, je m'appelle Corinne, je suis étudiante à l'Université d'Angers depuis 2 ans, en licence sciences sociales parcours animation sur le campus de Cholet. Et j'ai effectué un stage de 3 mois au Pérou. À travers cette interview, je vais vous raconter un peu les péripéties auxquelles nous avons fait face à cause de l'épidémie du Covid-19.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais choisi le Pérou comme destination et dans quelle ville tu étais ?
Donc déjà, on était 4 étudiantes de l'Université d'Angers. Je suis partie avec 3 de mes camarades. On a choisi le Pérou comme destination parce que c'est un pays très accueillant et on voulait découvrir l'Amérique du Sud. Et puis, il y avait d'autres étudiantes de l'Université d'Angers qui étaient parties il y a 2 ans, dans la même structure que nous. Donc, c'était un orphelinat géré par une congrégation religieuse. Et ça s'était très bien passé, donc elle nous l'avait conseillé. On était exactement dans la ville de Puente Piedra.
Quand est-ce que tu y es arrivée ? Comment se sont passés les premiers jours ?
On est arrivé le 14 janvier 2020. Les premiers jours se sont très bien passés. On a été très bien accueillis par les sœurs. On a découvert les environs de l'orphelinat et on a fait connaissance. Donc on s'est bien habitué à leur mode de vie dès les premiers jours.
Combien de temps tu as pu y vivre normalement avant l'arrivée de l'épidémie de Covid-19 ?
Alors on a pu vivre normalement pendant 2 mois jusqu'à mi-mars. Avant que le président prenne des mesures pour gérer cette épidémie.
En France, les premières semaines, tant que l'épidémie était cantonnée à la Chine, on voyait ça de manière assez distante. Est-ce que c'était pareil au Pérou ?
Au Pérou, non, parce que les habitants font très attention à leur santé, c'est quelque chose de primordial, notamment parce qu'ils n'ont pas les moyens humains, ni financiers, ni matériels pour se soigner, donc ils font très attention et l'épidémie faisait peur.
Quelles ont été les mesures prises sur place ? Confinement, fermeture des universités ?
Donc le président a commencé par déclarer un état d'urgence le 16 mars. Ensuite, il a fermé toutes les écoles et toutes les universités alors que la rentrée des classes avait eu lieu 3 jours avant parce qu'au Pérou, les grandes vacances ont lieu de mi-décembre à mi-mars. Donc les élèves ont fait que 3 jours d'école. Après, donc il y a eu un couvre-feu de 18h à 4h du matin où personne ne pouvait sortir. Et la dernière mesure qui a été prise avant qu'on parte le fait que les femmes et les hommes ne pouvaient pas sortir en même temps. Donc 1 jour sur 2, c'était les femmes soit les hommes et le dimanche, personne ne pouvait sortir.
Est-ce que tu as pris rapidement la décision de vouloir revenir en France ou tu envisageais de rester et on t'a conseillé autrement ou tu as changé d'avis ?
Alors non, pas du tout. Au début, le Pérou n'était pas concerné par l'épidémie et nous, dans notre structure qui était bien sécurisée, donc on était en sécurité et on ne se sentait pas vulnérable, on va dire. Et nos stages n'étaient pas finis, on n'avait pas encore tout vu et on pensait pouvoir visiter davantage le Pérou, même si finalement ça n'a pas pu se faire avec l'épidémie. Mais au début, non, je ne voulais pas du tout rentrer et avec mes camarades, on était toutes d'accord, on voulait rester jusqu'au bout de notre stage au moins. Au final, on a commencé à changer d'avis lorsque Iberia a annulé notre vol du 14 avril. À ce moment-là, le stress commençait à monter, on ne savait pas quand et comment allions-nous rentrer en France. Donc on a déjà été confronté à ce problème-là, l'annulation du billet. Ensuite, donc on a essayé d'appeler différents organismes comme le consulat ou donc les agences Iberia et personne ne pouvait nous répondre. On était complètement dans le flou, on savait pas quand est-ce qu'on pouvait rentrer ni comment.
Et quel soutien as-tu eu de l'Université d'Angers ?
Alors, donc l'Université nous a demandé quand est-ce qu'on rentrait et enfin si on allait rentrer. Donc on leur a répondu que notre billet était annulé, qu'on ne savait pas comment faire et que des vols de rapatriement étaient mis en place par Air France. Mais dans ce cas-là, il fallait payer un nouveau billet. Billet qui s'élevait à entre 600 et 700 euros. Donc en tant qu'étudiante, on ne pouvait pas se permettre de payer un billet à tel prix étant donné de nos faibles ressources. Donc à partir de ce moment-là, l'université nous a versé une aide grâce à une cellule de crise mise en place pour les étudiants en danger, on va dire, par rapport au Covid-19. Et donc on a réussi à avoir une aide grâce à l'université. En plus, on a eu le soutien de l'université, donc on nous demandait souvent comment ça allait, si on avait le moral, et ce soutien-là nous a rassurés quand même. Donc au final, on a pu acheter ce billet Air France et on a été rapatriés par le 4e ou 5e vol, l'avant-dernier. Il n'y avait plus qu'un seul vol après nous qui rejoignait Paris. Donc, on a pu prendre ce vol. On a dû aller à l'ambassade, puis de l'ambassade, on nous a transférés en bus à l'aéroport militaire, et de l'aéroport militaire, on a pu décoller pour un vol direct en arrivant sur Paris. Après, c'est pareil, de base, on devait atterrir sur Nantes avec notre vol Iberia, ce qui nous rapprochait de notre domicile en France, mais là, il fallait s'organiser pour rentrer directement de Paris, ce qui faisait un peu plus de route.
Et finalement, rentrer en France en période de confinement, ça doit être particulier aussi. Comment est-ce que tu l'as vécu ?
Alors, arrivé en France, on était déjà un peu moins stressé parce qu'on était arrivé sur notre territoire et proche de notre famille. Mais il y avait moins de mesures de prise. Déjà au Pérou, on avait l'obligation de sortir avec des gants et des masques. Et il n'y avait pas grand monde dans la rue par rapport à d'habitude. Alors qu'en France, on a quand même croisé du monde. Très peu de personnes portent de masques. Très peu de personnes portent de gants. Donc ça nous a un peu surpris. Et sinon, la période de confinement, je le vis plutôt bien. Je suis entourée de ma famille. Mais comment, j'imaginais pas mon retour comme ça. C'est vrai que ne pas voir ses amis pendant autant de temps, c'est un peu difficile quand même.
Est-ce que tu as continué ou continué à suivre l'actualité péruvienne ?
Alors, l'actualité péruvienne, oui, je la suis tout le temps. On peut voir qu'il y a des mesures qui se durcissent et que les vols envers Paris sont annulés. À partir du 22 avril, tous les vols sont vraiment annulés, il n'y a aucun vol. Donc, l'actualité péruvienne, oui, je continue de la suivre.
Tu espères avoir l'occasion de pouvoir repartir à l'étranger à l'occasion ?
Oui, bien sûr. Malgré cette épidémie, ça a été une expérience vraiment inoubliable et unique. On a créé énormément de liens avec les jeunes filles de l'orphelinat. On a été très surprise par l'accueil, la générosité et l'amour que donnaient les jeunes filles et les sourires des Péruviens, l'aide qu'ils nous donnaient dans la rue quand on avait des renseignements à demander. Ils sont pas du tout individualisme comme personne, ils sont toujours dans l'aide.
Merci à Corinne d'avoir répondu à nos questions. On enchaîne tout de suite avec les projets menés par David Rousseau à l'aide d'outils d'intelligence artificielle.
Je suis avec David Rousseau, enseignant-chercheur en physique et plus précisément au sein du master photonique, signal et imagerie, qui propose sur sa chaîne YouTube des formats courts de poésie sonore conçus à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Il s'agit également d'énigmes dont il faut retrouver les moyens de la conception. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous donner une définition, votre définition de l'intelligence artificielle, qui est un terme qui a peut-être été réinterprété, un peu fantasmé ?
Oui, alors... l'intelligence artificielle, c'est un domaine à part entière de l'informatique. En tant que physicien, j'utilise plutôt des outils de l'intelligence artificielle qui permettent finalement de résoudre des tâches qui seraient complexes pour des humains par des machines. Et en l'occurrence, nous, la part de l'intelligence artificielle que l'on met en œuvre avec les étudiants, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine, c'est-à-dire faire apprendre à des machines à résoudre un certain nombre de tâches complexes, par exemple reconnaître des visages, classer des images, modifier des images dans un style d'un peintre célèbre, etc.
Et est-ce que c'est une partie de ce qu'on enseigne, de ce qu'on étudie au sein de votre master ?
Oui, au sein du master photonique, signal, imagerie, donc on étudie de manière intégrative la conception de systèmes optiques qui vont des parties purement optiques, des composants optiques, des capteurs, mais aussi la partie traitement des données. Et donc ça peut aller jusqu'à effectivement des algorithmes d'apprentissage machine et donc d'outils d'intelligence artificielle qui sont conçus de manière intégrative.
Et ce sont des outils spécifiques. Alors, par exemple, pour les formats que vous avez réalisés, quels outils vous utilisez et comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, effectivement, sur cette chaîne YouTube, sous la forme d'un petit jeu que j'ai donné aux étudiants, je suis allé mobiliser un certain nombre d'algorithmes qui sont déjà disponibles en ligne pour créer du son, pour créer des textes, pour générer ou modifier des images et qui ont comme point commun d'utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds, en anglais deep learning, qui sont des technologies relativement anciennes mais qui ont un énorme regain à partir de 2012 quand des grandes bases de données et des moyens de calcul conséquents ont été à disposition de tout le monde, y compris maintenant du grand public et y compris d'artistes qu'on appelle deep artists, donc pour faire écho à cet aspect deep learning.
Et alors comment ça fonctionne là par exemple pour réaliser un de ces formats? Vous rentrez des données, vous proposez plusieurs textes, plusieurs images, et après comment est-ce que c'est traité?
Alors typiquement parmi les petites énigmes là qu'on a, je peux en révéler certaines. On en a une auquel on donne une image à un algorithme et l'algorithme va reconnaître de manière sémantique le contenu de cette image. Par exemple, voir qu'on est dans un contexte urbain et va aller chercher des sons associés au contexte qu'elle a reconnu et puis produire un son plausible. Une des petites vidéos eh bien, produit une image de la maison d'Adam à Angers avec des sons de marteau-piqueur qui aujourd'hui renvoient presque à un sentiment de nostalgie. Dans le cas de la maison d'Adam, on pense que le réseau a vu comme des échafaudages, d'où la génération de sons de marteau-piqueur tel que ça a été produit là, sur l'algorithme et la petite vidéo qui est en ligne sur la chaîne YouTube.
Et alors, au-delà de ces petites vidéos, vous êtes également sur un autre travail avec vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ?
Ces vidéos, c'était comme un point de départ un petit peu pour aiguiser la curiosité des étudiants, leur montrer ce qui était possible avec des outils de deep learning pour faire de la génération de textes, d'images ou de sons. Et donc, notre projet, qu'on espère finaliser sous la forme d'un composant physique à l'issue du déconfinement, va consister en un photomaton événementiel. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir une prise d'image, comme ça se fait beaucoup maintenant dans les festivals. On a un petit photomaton, une prise d'image, et puis on va utiliser les algorithmes qui ont été mis en œuvre dans ces vidéos de la chaîne YouTube là, pour par exemple appliquer un filtre à la manière de tel ou tel artiste, ou produire une interprétation sous forme de texte de ce qui est vu dans l'image, et donc de pouvoir permettre aux personnes qui seront passées devant ce petit photomaton de récupérer une image, et en plus de la photo, il y aura ce qu'aura vu le réseau de neurones, donc par exemple un texte généré à partir de la photo, et donc les étudiants dans la période confinée vont produire les algorithmes et puis on ira jusqu'à réaliser cette petite boîte avec l'appareil photo et puis l'algorithme embarqué dans un mini PC pour appliquer les filtres et envoyer la photo directement peut-être par email aux personnes qui se seront prêtées au jeu événementiel pourront repartir avec une photo et puis une interprétation soit sous forme de texte, de son ou de modification de l'image qui aura été prise avec ces outils qui ont été programmés par les étudiants. Donc on espère pouvoir offrir ce automaton et voir le neuve lors de prochains rassemblements à Angers sur le campus par exemple.
En espérant qu'on puisse effectivement se ressembler à nouveau un jour. Je mettrai le lien qui dirige votre chaîne YouTube pour qu'on puisse se rendre compte un peu de à quoi ça ressemble de manière un peu plus concrète. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission après Full Tet et le titre Baby.
Oh, Excuse baby, you're all that I have.
Votre écoute sur Radio Campus Angers pour cette dernière émission, et on retrouve maintenant Nathalie Clot qui nous parle de la réouverture partielle des bibliothèques universitaires.
Nous sommes en compagnie de Nathalie Clot, directrice des bibliothèques universitaires et des archives de l'Université d'Angers. Tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Comment ça s'est passé de votre côté, le confinement? J'imagine que ça a dû bouleverser pas mal vos habitudes de travail.
C'était brutal, et pour nous ça a vraiment été un très grand vide en fait, parce que nous ne vivons que par le public qui fréquente les bibliothèques, qui utilise ces ressources. Et ça faisait des années qu'on essayait de faire des choses pour que les gens se rencontrent, se voient à la bibliothèque. Et là, d'un coup, tout ça a été coupé. Donc, il est resté une grande partie des ressources de la bibliothèque avec la bibliothèque en ligne. Mais ce qui se voyait le plus et ce qui prenait le plus de sens pour nous a disparu d'un coup. Donc ça a été dur pour nous et sans doute pour les gens qui utilisaient la bibliothèque.
Vous vous êtes focalisé sur d'autres manières de travailler, sur d'autres, sur quoi est-ce que vous avez travaillé durant cette période ?
Une partie de notre travail a disparu, donc ça a été quelque chose à organiser. Et sinon, on s'est vraiment concentré sur le fait de pouvoir répondre aux gens qui pouvaient avoir des questions sur l'utilisation de la bibliothèque en ligne et sur le partage le plus large possible de toutes les ressources que les éditeurs ont pu ouvrir pendant le confinement, de manière à ce que, au-delà des 25 000 revues auxquelles on était déjà abonnés, au-delà des 15 à 20 000 livres dont on offrait l'accès en ligne, pour que ce soit le plus simple possible pour les gens d'avoir accès à la bibliothèque en ligne. Ça a vraiment été notre cœur d'activité pendant ce confinement. Après, on sentait bien que les étudiants bataillaient avec d'autres choses, avec la continuité pédagogique, avec plein de choses, et qu'ils n'avaient pas la tête à lire des livres pour un certain nombre d'entre eux.
Vous avez été beaucoup sollicité, vous avez eu beaucoup de demandes d'étudiants ?
Non, assez peu en fait. Et on a participé en tant qu'équipe de la bibliothèque au rappel des étudiants organisé par l'université pour essayer de détecter les personnes qui n'avaient pas de connexion, qui étaient en galère. Et on se rendait vraiment compte en appelant toutes ces personnes-là que l'accès aux livres n'était pas leur priorité. Et je pense que ça a été le cas pour beaucoup. Rester un peu connecté aux autres, revivre chez ses parents, se connecter, tout ça était des enjeux plus forts que ce sur quoi nous, bibliothèques, nous pouvions aider et accompagner. On était prêts à montrer aux gens comment ça marchait, etc., mais on n'a pas eu vraiment de demande. On en a eu très très peu.
Et là, maintenant, comment ça va se passer? Alors, on sait que les universités vont rester fermées jusqu'à la rentrée prochaine, mais vous envisagez une réouverture possible des bibliothèques, au moins pour ce qui concerne le prêt des documents?
Alors, exactement. Alors, moi, je ne parle pas de réouverture des bibliothèques parce qu'on ne réouvre pas la bibliothèque telle qu'on la connaît. Nous remettons en place la circulation des documents. Donc, ça veut dire que les 24 000 livres qui sont actuellement dans les mains de plus de 5 900 étudiants vont pouvoir revenir. Donc, à partir du 18 mai, nous allons organiser des guichets sur rendez-vous pour que les gens puissent rendre leurs livres sans faire la queue à la bibliothèque. Et d'un autre côté, nous avons eu de très nombreuses demandes d'étudiants pour pouvoir prendre d'autres livres, pour pouvoir boucler leur mémoire, etc. Et donc, sur le même modèle, nous allons organiser la possibilité, groupe de 10 par groupe de 10, pour des gens de venir choisir leurs livres dans les rayons et, là encore, en respectant la distanciation sociale, pouvoir accéder à la collection matérielle physique de la bibliothèque.
Je suppose que c'est assez compliqué parce que les livres, forcément, ça circule beaucoup, on les touche. Comment ça va se passer pour le prêt, le retour de ces livres ?
Pour le retour, nous allons juste demander aux personnes qui rendent leurs livres de les poser sur un chariot et ensuite on va les laisser sur le chariot le temps que toute trace virale disparaisse, si tant est qu'il y en ait une. Et nous ne rangerons les livres qu'au bout de 5 jours. Pour ce qui est des prêts, donc ce que nous allons demander aux gens, c'est vraiment de suivre ces protocoles de distanciation sociale qui vont devenir familiers et les protocoles de gestes barrières. Donc, les gens qui viendront dans la bibliothèque devront porter un masque, puisqu'on est à l'intérieur, et devront, à l'entrée et à la sortie, se laver soigneusement les mains avec de la solution hydroalcoolique. Et donc, de cette manière-là, nous allons limiter les risques de portage des mains aux livres et des livres au visage. On a fait le choix pour la réservation des créneaux de passer par l'application Affluence, que les étudiants connaissent bien parce que c'est celle qui leur servait jusqu'à présent à réserver des salles de travail de groupe. Et donc, là, on est vraiment parti sur le fait que les gens choisissent leur créneau et viennent quand ils le veulent. Donc, les dates de retour ont aussi été étalées jusqu'au mois de septembre. Donc, il n'y a pas d'obligation à venir immédiatement à la bibliothèque pour rendre ses livres. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que je vais pouvoir réserver des livres par le catalogue ? Nous n'allons pas fabriquer des paniers de livres que vous viendriez chercher comme pour un drive, en fait, parce que c'est à la fois complexe en logistique et en plus on s'est quand même vraiment rendu compte que la plupart des gens cherchent un livre et en prennent souvent un autre parce qu'ils le trouvent à côté sur les rayonnages et donc on va essayer d'encourager cette manière de chercher aussi enfin de trouver les livres qu'on ne cherche pas en permettant l'accès aux locaux plutôt que de passer juste prendre un panier de livres tout près.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez parler, quelque chose que vous voulez préciser qu'on n'aurait pas abordé ?
Que nous espérons qu'avec la situation qui revient quand même à la normale, la possibilité de sortir, la possibilité de s'évader autrement que dans sa tête et entre les quatre murs de sa chambre, les gens auront à nouveau envie de lire, auront à nouveau envie d'élargir leurs horizons mentaux et que la curiosité va s'éveiller à la fin du confinement. Donc ce qu'on va essayer de faire toute la semaine prochaine, c'est aussi de prévoir des sélections de livres que les gens pourront aussi emporter pour l'été, pour chez eux, et pour que cette libération qui va être la nôtre puisse être aussi une libération intellectuelle, donc à compter du 18 mai. C'est un peu notre espoir.
Bien, merci beaucoup Nathalie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
On approche quant à nous de la fin de cette émission. Le temps de remercier également les autres participants. Merci à Virginie Grimaud, merci à Corinne pour son témoignage, ainsi qu'à David Rousseau. Puisque c'est notre dernière, j'en profite également pour remercier Stéphanie Bouvier et Émilie de la direction de la communication qui ont contribué à la réalisation de ces émissions. De notre côté, on a été très contents de pouvoir travailler sur ce projet et on vous donne rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles collaborations entre Radio Campus et l'Université d'Angers. D'ici là, portez-vous bien.